André Gide et l'Afrique.
Un article de René Maran dans Le Phare égyptien, 22 avril 1951. On a beaucoup écrit d'André Gide, les uns pour médire de son œuvre, tant sur le plan littéraire que politique, les autres pour la porter au nu. Le fait est que la plupart des critiques sous lesquelles on cherche à l'accabler émanent d'écrivains servant d'oracle à des partis politiques sujets à des accès de fièvre de recrutement. Tous se fondent pour rendre leurs arrêts moins sur la forme et le fond des ouvrages de l'auteur du Retour de l'enfant prodigue que sur les impératifs promulgués par Charles Maurras dans L'avenir de l'intelligence, Karl Marx dans Le Capital et Georges Sorel dans Réflexion sur la violence. Que de fois ai-je lu, relu et approfondi de 1912 à 1923, d'abord dans l'Oubangui, plus tard au Tchad, l'Immoraliste, le retour de l'enfant prodigue précédé de 5 autres traités et la Porte étroite, ces 3 ouvrages faisant partie des 150 volumes de la petite bibliothèque itinérante que j'ai traînée partout avec moi tant que j'ai été fonctionnaire en Afrique équatoriale. Ce qui me plaisait alors le plus dans André Gide et son œuvre de critique et de moraliste, peu à peu purgée des tics et des manies du symbolisme, c'était la musique intérieure de cette œuvre, la poésie de son écriture, enfin la personnalité de son chant, qui me prenait chaque fois que je l'écoutais dans l'impondérable fluide et sonore douceur de ses mailles, comme m'avait naguère retenu dans les leurs, pour des raisons analogues, les chants de Renan, d'Anatole France et de Maurice Barrès. Je ne me suis vraiment attaché à l'œuvre d'André Gide qu'à partir du moment où j'ai senti et compris que ce styliste était en même temps un grand bonhomme au cœur bardé d'un triple airain, un lutteur impassible ne craignant ni les injures ni les coups, un juste entre les justes, passionné de vérité. À bien y réfléchir, la vie d'André Gide a suivi sa pente naturelle. Il était de ces écrivains qui rêvaient, dans leur jeunesse, de devenir des hommes d'action, et qui ont réussi à réaliser, presque malgré eux, le plus cher de leurs rêves, à l'heure où ils n'y pensaient plus guère. Ne s'écriait-il pas dans Le Voyage du Rien, sous le masque de Tradolino ? Nous avons quitté nos livres parce qu'ils nous ennuyaient. Nous étions là de la pensée. Nous avions besoin d'action. Et ne disait-il pas dans un autre passage du même ouvrage ? Ne sais-tu pas, hélice malheureuse, que le livre est la tentation ? Et nous sommes partis pour des actions glorieuses. Tout respire dans ces lignes le besoin d'agir. Mais où aller et que faire pour accomplir ces actions glorieuses ? Voyager pour retrouver ses vieilles pensées, c'était tuer dans l'œuf l'élan qui déjà l'emportait vers l'Afrique. Il semble en effet qu'André Gide ait considéré dès 1892 l'Afrique comme le continent promis aux actions un peu vagues dont il rêvait. En tout cas, l'Afrique ne cessera plus de dominer ses pensées. L'attrait qu'elle exerce sur lui éclate dans ses premières œuvres, plus particulièrement dans Amintas et L'Immoraliste. Est-ce trop lui prêter que d'affirmer que cette Afrique-là, l'Afrique du Nord, lui a fait désirer connaître celle qui comportait encore à cette époque tant de taches blanches sur les cartes ? On voudrait savoir, d'autre part, quelle influence ont exercé sur son tolérant et clairvoyant calvinisme les découvertes du pasteur protestant Livingstone et la lecture de Cœur des ténèbres de Conrad. Toujours est-il qu'on le voit vainement chercher dans Amintas ce café sombre où ne venaient que les grands nègres du Soudan, et noter un jour à Biskra, sur son carnet de route, « Musique nègre, que de fois, loin de l'Afrique, j'ai cru t'entendre. » Il est probable que c'est aussi à Biskra qu'il a pour la première fois entendu le mystérieux appel de l'Afrique noire, pendant que 3 nègres exécutaient sous ses yeux de véritables morceaux de rythme, rythme impair, bizarrement haché de syncope, qui s'affolait et provoquait tous les bondissements de la chair. Le romancier des faux monnayeurs n'a donc pas eu à atteindre la fin de la première des 2 grandes guerres mondiales et la vogue du jazz pour découvrir la magie de la musique nègre et les vertus de son envoûtement. Pressentant en elle, par elle, certains des maux qui rongeaient l'Afrique noire jusqu'au moelle. Il s'est penché sur celle-ci et s'est intéressé à cela dès qu'on lui a donné l'occasion. Voyage au Congo et retour du Tchad sont nés de l'enquête méticuleusement nonchalante qu'il a menée en 1926 ou 1927 au cœur des immenses territoires que la France doit au courage, à la ténacité et à la diplomatie de Pierre Savorgnan de Brazza. À partir du moment où ces deux ouvrages ont mis le rayonnement de leur humanisme au service d'une cause qui a toujours été celle de la France et qui, pour reprendre l'admirable expression de l'auteur inconnu de la légende de Guillaume d'Orange, est celle de « la justice juste », toutes mesures utiles ont été prises pour que disparaissent à jamais de l'ensemble des colonies françaises de l'Afrique noire les abus et excès de tout genre qui pouvaient y exister encore. Ainsi, grâce à André Gide, pris fin sur un triomphe, l'apostolat poursuivi pendant tant d'années en pure perte par les Féliciens Chalaï et une petite poignée d'hommes au nombre desquels on me fait l'honneur de me ranger. Des deux ouvrages qu'André Gide a consacrés à l'AEF, le premier est le seul important. N'eût-il écrit que celui-là qu'il suffirait à sa gloire. Les Noirs, population de l'immense fédération que M. Bernard Cornu-Gentille mène aujourd'hui avec tant de lucidité et de sagesse, feront bien de ne jamais l'oublier. Elles ne feront, en agissant de la sorte, que rendre hommage mérité à la mémoire du grand écrivain qui les a depuis lors toujours défendues à ses risques et périls. Elles n'ont pas d'autre moyen de reconnaître que, sans son initiative, l'Union française n'aurait peut-être jamais vu le jour.